Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation.
Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat,
c'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon mercredi, bon début d'après-midi. J'espère que tout se passe bien de votre côté. C'est Marianne Paquette au micro pour les 30 prochaines minutes. Vous écoutez l'émission « C'est bon pour la santé » sur Canal M. Eh bien, selon les dernières statistiques du ministère de l'Éducation, du Loisir et des Sports, émises en 2014, donc tout de même assez récent, les jeunes secondaires sont de moins en moins nombreux à décrocher, et ce, autant sur l'île de Montréal que dans l'ensemble du Québec. Et ça, c'est une excellente nouvelle, bien sûr, vous le deviner pour nous, pour les adultes, pour l'ensemble de la société, finalement. Et ça, c'est peut-être grâce à l'initiative de différentes écoles qui tentent de cibler les besoins bien particuliers de leurs élèves et de les soutenir également dans leurs défis scolaires, et ce, au quotidien. C'est le cas de l'école John F. Kennedy, une école qui est située à Beaconsfield, une école publique autant primaire que secondaire, où tous les élèves vivent avec un handicap ou une déficience. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, eh bien, on verra comment cette école tente d'éviter la rupture scolaire de leurs élèves avec Josée Beaulieu, coordonnatrice du CRDIT de Montréal, et Manon Lusignan, conseillère cadre à la direction adjointe partenariat et soutien à l'offre de services. Et puis d'abord, vous dire que la fumée de tabac, on s'en doute, là, ça contient énormément de substances chimiques, plus précisément 7300 substances chimiques, et là-dessus, 60 peuvent être cancérigènes. Et l'affaire, c'est que les deux tiers de cette fumée-là sont rejetés dans l'environnement, dans l'air, hein, sans être inhalés par le fumeur lui-même. Donc, bien sûr, c'est les gens autour qui sont touchés par la fumée dite secondaire et s'entraînent de nombreux problèmes de santé. Ici, au Québec, les chiffres sont pas trop reluisant. Là, on est au dernier rang du pays en matière de protection des enfants contre la fumée secondaire. Et selon plusieurs études, les Québécois âgés de moins de 12 ans sont deux fois plus nombreux à y être exposés que les autres enfants canadiens du même âge. Quels sont les impacts pour la santé de nos petits? J'en parle à l'instant avec Dr. Christiane Laberge, porte-parole de la campagne « Famille sans fumée ». Docteur Christiane Laberge, bonjour.
Bonjour.
Évidemment, la fumée secondaire, ça touche tout le monde, mais particulièrement les enfants, les bébés. Pourquoi donc?
Parce que d'abord, les bébés ont les poumons moins développés que les grandes personnes. Mm-hmm. Nous, on a un bon espace entre notre trachée, qui est très longue, nos deux grosses bronches, qui se divisent ensuite en moyenne et en plus petites. Or, les enfants ont des toutes petites bronches partout, de telle sorte que quand ça devient enflé, quand ça devient inflammé, la respiration est aussi plus rapide chez le petit bébé. Donc, la fumée inhalée va avoir son pouvoir irritant beaucoup plus important. D'autre part, on sait que, par exemple, les trompes de Stache des bébés, comme ils ont un visage rond et que le visage s'allonge avec le temps, bien, la trompe de Stache est horizontale à peu près à la naissance et va planter tranquillement, va avoir une dérivation qui va faire que ça va drainer ultérieurement avec un axe. Mais quand ils sont tout petits, ça draine mal. Donc, si le petit trou d'évacuation de liquide en arrière des tympans est bouché parce qu'il est irrité, il est enflé par la fumée secondaire, évidemment, on a plus d'otite, on a plus de bronchiolite, on a plus de bronchite et on a des bébés en moins bonne santé.
Oui. Et j'imagine que ça touche aussi le fœtus, là, lorsqu'on parle de la santé de la mère.
Ça, c'est énormément, parce que toutes les substances chimiques qui passent au travers du sang de la mère par l'inhalation de cette fumée-là, même la fumée secondaire, hein, celle qui est exhalée par le fumeur, il n'y a pas une combustion parfaite des produits de la cigarette, ça va aller directement dans le sang et ça va compromettre l'oxygénation d'abord. Et deuxièmement, ça va intoxiquer le bébé directement, de telle sorte que ces bébés-là ont souvent des retards de croissance au niveau global. Ils ont aussi des retards de développement au niveau du cerveau et ils ont aussi des troubles de déficit d'attention beaucoup plus importants que les autres enfants qu'on entend ou qu'on voit au travers, parce que ça, c'est très important. Il faut savoir aussi que les parents qui sont porteurs de troubles de déficit d'attention ont aussi plus tendance à fumer. Donc, déjà, tu as une génétique plus l'intoxication, de telle sorte que ça fait des enfants qui ont plus de problèmes.
Ben oui, parce qu'il y a des études qui ont établi vraiment le lien entre l'exposition à la fumée et les troubles d'apprentissage.
Oui, il y a une relation qui n'est pas 100%, mais que tu donnes pas de chance à ton bébé si, évidemment, tu es dans ce contexte-là. Donc, effectivement, on est dans les problèmes jusqu'aux oreilles.
Oui. Docteur Laberge, on a parlé de bronchite, on a parlé d'otite. Est-ce que ces enfants-là sont davantage exposés à l'asthme aussi?
Bien sûr, parce que toute inflammation du poumon amène des crises d'asthme beaucoup plus fréquentes. Évidemment, l'absence scolaire, l'absence du travail, quand c'est des enfants un petit peu plus vieux qui travaillent déjà. Donc, la fumée secondaire a même des effets sur les adultes. Tu sais, quand vous rentrez dans un appartement qui a été habité par des fumeurs et que vous lavez le mur, vous avez des grandes coulisses jaunâtres, mais ces coulisses-là, elles sont dans vos poumons.
Ah oui, alors, c'est une image assez forte, ça.
Ah oui. Alors, si vos rideaux sentent, votre poumon sent. Vos oreilles sentent.
Évidemment, bon, il n'y en a pas de secret, il n'y en a pas de miracle. La solution pour protéger nos enfants contre la fumée secondaire, ça serait de ne pas fumer. Mais bon, on ne peut pas les protéger de tous les autres fumeurs dans leur environnement. Comment on fait pour les protéger le plus possible, là, malgré qu'on ne peut pas tout contrôler autour d'eux?
D'abord, il faut faire un petit peu de conscience sociale, c'est-à-dire qu'on dit aux fumeurs, je n'ai rien contre toi, j'en ai juste contre l'objet que tu tiens de tes lèvres. Oui. Donc ça, c'est de un. De deux, si tu veux fumer, je ne t'empêche pas de fumer, mais tu vas aller fumer dehors. Ça va être la première chose à faire. La deuxième chose à faire, c'est de protéger les enfants. Donc, on fait respecter les règles dans la maison. Vous accepteriez pas que j'arrive avec un parfum dégueulasse et que je le vaporise partout sur vos objets, sur vos rideaux, sur vos sofas. Pourquoi j'accepterais que toi, tu vaporises ta fumée sur mes objets, sur mon monde?
Oui.
Alors, effectivement, on sensibilise le fumeur et on s'organise pour qu'il ait des facilitateurs pour aller plus volontiers fumer dehors, parce que ça prend 10 000 changements d'air pour changer la fumée, pour enlever la fumée. Donc, les gens qui vont fumer sous la hotte, les gens qui vont fumer dans la salle de bain, la fenêtre ouverte, les gens qui vont fumer la porte patio ouverte, hein, on sait que le vent est toujours du mauvais bord, il va faire rentrer la fumée. Donc, c'est des changements d'air nécessaires de telle sorte que c'est dehors parfaitement. Donc, en général aussi, c'est désincitatif. Ça fait que les fumeurs fument moins. Et à ce moment-là, sont plus tentés d'arrêter de fumer à moins 30, évidemment.
Oui, c'est ça. Moi, dans ma et c'est important de le dire, Dr Laberge, parce que c'est les fêtes hein, qui s'en viennent, les rencontres familiales. Oui. Donc oui, il y a des fumeurs encore dans nos familles. Et moi, pendant longtemps, les fumeurs de ma famille allaient dans le sous-sol pour fumer. Oui. Mais évidemment, la fumée monte, donc toute la maison, bien sûr, empestait la fumée. Et j'imagine que pour notre santé, il y avait des impacts aussi à ce moment-là.
Tout à fait. Même dans le garage.
Oui.
Même dans le garage, dans les sous-sols. Donc, on suggère d'aller fumer dehors. Et surtout, vous savez que le défi tabac, défi santé s'en vient, de telle sorte qu'on va pouvoir en parler en famille pour se trouver un coach, un accompagnant, pour faire que ces gens-là cessent de fumer entre le 1er mars et le 11 avril, qui s'engagent à être ex-fumeurs pendant cette période-là. Donc, on commence à travailler ça pendant les fêtes, et ça serait peut-être le plus beau cadeau qu'on pourrait offrir à quelqu'un.
Certainement. En terminant, Dr Laberge, comment on peut expliquer qu'ici au Québec, on soit si loin derrière les autres provinces en matière de protection des enfants contre la fumée secondaire?
Mais parce que ici, on est des Latins, donc on est pour la liberté d'expression, la liberté individuelle. On valorise beaucoup ça, donc c'est mon problème, c'est mon affaire. Mais il faut juste se rendre conscient que ta liberté arrête où la mienne commence. Si je vous mets de la fumée vis-à-vis le nez, vous allez dire que je suis folle, c'est tout. Mais si je vous mets les deux doigts dans le nez, vous allez dire « wow ». Ça, c'est plus important. Ta liberté arrête ou la mienne commence. Donc, il faut être conscient de ça, que la liberté de l'un ne doit pas priver la liberté de l'autre. Et ça, plus on va informer, plus on va rendre les gens conscients qu'il existe d'autres personnes autour d'eux et que tout ça, c'est leur responsabilité aussi de faire qu'ils soient plus en santé. Si moi, je veux m'intoxiquer, c'est correct. Là, c'est à la limite, c'est mon ultime liberté. Mais toi, tu peux y résister.
Ouais. Mais est-ce qu'on peut espérer une nouvelle loi adoptée par le gouvernement québécois bientôt?
Actuellement, on tend à avoir la loi sur, je ne sais pas quand, si elle a été, je ne me rappelle pas si elle a été appliquée, mais ça va être difficile à appliquer, celle de la loi pour ne pas fumer dans les voitures où il y a des enfants.
Ben
déjà qu'on a de la difficulté à les attacher ou à les asseoir à la bonne place, on a pourtant des lois très rigides là-dessus. Mais vous savez qu'il y a encore des enfants qui sont libres dans les autos. Il y a des enfants qui sont assis encore sur les genoux des parents. Donc, on part de loin.
Oui. Alors, je laisse le site de la campagne Famille sans fumée, famillesansfumée.ca. C'est une campagne qui existe depuis plusieurs années. Vous en êtes la porte-parole pour la première année, Dr. Christiane Laberge. Merci beaucoup. À vous,
merci.
Joyeux temps des fêtes.
Et bon défi après
oui.
les fêtes.
Merci. Au revoir.
Au revoir.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
José Beaulieu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordonnatrice du CRDITED de Montréal, accompagnée de Manon Lusignan. Bonjour, Manon.
Bonjour.
Conseillère cadre à la direction adjointe partenariat et soutien à l'offre de services. Et on est là pour parler d'une initiative qui semble plutôt assez concluante du côté de l'école JFK. Je parlais un petit peu du profil des élèves de ce côté-là, donc des élèves d'âge primaire et secondaire qui vivent tous soit avec un handicap et une déficience, donc peut-être un petit peu plus confrontés à des différentes problématiques, du moins déjà une difficulté académique. Et pourtant, votre approche, vos initiatives semblent assez concluantes parce qu'il y a de moins en moins de décrochage, je pense, du côté de votre école.
Oui, effectivement, si on se ramène un petit peu là, en 2011, il y avait eu un état de situation de fait pour la région de Montréal, là, pour l'ensemble du territoire de Montréal, qui disait que, dans le fond, il y avait 137 élèves, de jeunes élèves primaires, secondaires, qui étaient en rupture de fonctionnement, ça veut dire en bris de service par rapport aux écoles, qui se retrouvaient à la maison. Et de ces 137 élèves-là, il y en avait 36 % au primaire et 57 % au secondaire. Donc, c'est quand même important. Et de ce nombre-là, il y avait quand même 65 % de ces élèves-là qui se retrouvaient dans des écoles spécialisées et en rupture de fonctionnement. Donc, on parle d'élèves qui ont des besoins importants, un profil qui demande différentes expertises, à être associé pour mieux desservir ces enfants-là à l'école. Donc, compte tenu de ce constat-là, rapidement, on s'est dit qu'il est important qu'on s'arrête, les gens du réseau de la santé et de l'éducation, pour regarder, réfléchir comment on peut mieux desservir cette clientèle-là. Donc, d'où le développement de l'importance de développer un continuum de services intégrés pour ces élèves-là. Intégrer, c'est important, c'est-à-dire la situation qui se passe à l'école.
Ouais.
Donc, s'interpeller au bon moment et non pas quand l'élève est déjà en rupture de service scolaire puis qu'il se retrouve à la maison. Ça, ça a été important d'avoir une même vision des services à mettre en place.
Oui. J'imagine que ça demandait une collaboration de plusieurs acteurs. Là, vous parlez du milieu de l'éducation, du milieu de la santé. Qui s'est joint à ce programme-là, à cette réflexion-là?
Mais comme vous dites, d'ailleurs, je précise qu'aujourd'hui, Mme Myriam Lemire, qui est la directrice de l'école JFK, était vraiment dans l'impossibilité de se joindre à nous. Fait que je tiens à le préciser et je lui offre mes salutations en même temps. Mais effectivement, c'est qu'on était souvent dans des dossiers pour qui concernaient, par exemple, un jeune. Et là, on arrivait vraiment dans une rupture scolaire et on avait un appel de l'école en disant « Bon, ben écoute, ce jeune-là ne vient plus à l'école, c'est terminé, jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Puis si vous voulez qu'il revienne à l'école, ben il faut que l'éducateur du CRDI soit avec lui tout le temps. » Ce qui, dans notre réalité, n'est vraiment pas possible à mettre en place. Donc, comment on peut apprendre à travailler? Et je vous dirais que c'est dans des situations, entre autres, une situation qui a été très problématique, qui est arrivée un petit peu avant Noël, comme ça, un dossier où on a dit, OK, là, il faut qu'on apprenne à se connaître et à se parler et à travailler ensemble. Donc, dépendant des besoins du jeune de qui on parle, ça peut être les professionnels, tant de l'école que du CRDI, ça peut être des psychoéducateurs, psychologues, orthopédagogues, orthothérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes, vraiment les éducateurs spécialisés, l'enseignant. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe parce que selon la situation, selon le besoin qui est vraiment requis pour l'enfant, ça va être différentes personnes et différentes professionnels qui vont avoir à tenir un rôle un peu plus de leader dans ce dossier-là.
Différentes approches aussi, j'imagine.
Tout à fait. Tout à fait. La particularité ou le défi qu'on avait avec l'école JF Kennedy, c'est que cette école-là a un mandat régional. Et même, il y a des élèves qui viennent de l'extérieur de l'île de Montréal. Donc, nous, ce qui est important, c'est, oui, d'arriver à faire une bonne lecture des besoins du jeune à l'école, mais pas de, de le desservir de façon morcelée. C'est-à-dire, la majorité de ces enfants-là reçoivent des services du réseau de la santé à la maison. Donc, c'était important de réfléchir aussi cette trajectoire de service-là ou de communication avec les gens qui travaillaient auprès du jeune à la maison pour s'assurer qu'on était bien concertés et complémentaires. Donc, les besoins nous emmènent à identifier l'expertise qui est requise. Comme Mme Beaulieu vous disait, il y a des ergothérapeutes à l'école, il y en a dans des CRDI, il y en a dans les CLSC. Lequel est le mieux placé pour répondre aux besoins du jeune? Quand on était interpellé, on était beaucoup dans une culture d'urgence.
Oui, c'est ça.
Quand on a commencé. Et on s'interpellait et tout le monde courait. Et là, je veux réitérer que ça fonctionne. Du moment où on met le jeune et sa famille au cœur de notre réflexion,
tout à fait.
C'est facile d'identifier l'expertise qui est requise et de bien définir la trajectoire de soins ou de services, parce qu'il y a des enfants qui sont suivis dans les milieux psychiatriques où on doit aller chercher le volet soins pour venir l'intégrer à son plan d'intervention et ça nous permet rapidement d'individualiser à l'intérieur d'une classe les services qui sont donnés. Puis ça, c'était une difficulté qu'on avait parce que les gens du CRDI arrivaient à l'époque un petit peu en hiérarchie sur l'école. Et ce qu'on s'est dit de travailler en partenariat, c'est d'arriver égal.
Égal.
Donc, de reconnaître l'expertise scolaire et de travailler avec ce qui a bien fonctionné ou pas bien fonctionné auprès du jeune et de s'ajuster et de venir s'inscrire une valeur ajoutée, dans le fond,
dans
l'expertise.
Dans un continuum aussi,
tout à fait.
On parle un petit peu par la bande du profil de ces jeunes-là, je l'ai dit tout à l'heure, déficience, handicap, plus précisément, à quoi ressemble leur quotidien? Ils vivent avec quel genre de défis?
Mais ça peut être des défis au niveau de l'intégration, des personnes qui vont être non-verbales, par exemple, et que leur façon d'exprimer leur mal-être ou leur malaise va être de frapper. Donc, le comportement de frapper, c'est vrai que c'est extrêmement dérangeant. C'est pas quelque chose qui va aider dans ton intégration sociale de façon générale, mais ça devient à l'école que c'est le prof qui mange la taloche 50 fois par jour. À un moment donné, il est comme un petit peu saturé. C'est pas agréable.
Et là, on s'expose à une rupture du personnel aussi à quelque part.
Parce qu'à l'école, John F. Kennedy, il y avait quand même un taux de blessure et d'absence assez élevé, là. Et ce taux-là a vraiment baissé de façon significative pour l'école dans les dernières années, ce qui est quand même un fait notable. Donc, c'est un jeune, il faut vraiment... Quand on s'assoit ensemble, on est capable de chercher à comprendre qu'est-ce que ce comportement-là exprime. Et une fois qu'on en a décoder la signification, on est capable d'agir sur les causes. Parce qu'un problème de comportement n'a pas généralement une cause unique. Ça peut être un paquet de choses. Ça peut être que sa tuque est trop serrée, comme ça peut être qu'il haït ça dans le transport parce qu'il est collé sur un quelqu'un puis il n'aime pas la proximité physique, comme ça peut être qu'il ne voulait pas se lever ce matin. Il y a, ça peut être qu'il a mal aux dents. Il y a tellement de causes possibles. Nous, comme personne capable de s'exprimer, on va être capable justement de le dire, de le nommer, de le ventiler. Mais les jeunes qui vivent avec une déficience intellectuelle ou les jeunes qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme ne sont pas nécessairement en mesure de faire ça. Ou le moyen qu'ils ont pris pour le faire, c'est d'avoir des problèmes de comportement.
Nos travaux nous ont amenés à, être ciblés sur les besoins du jeune, mais je voudrais la lecture de ça nous a amené beaucoup à tenir compte des... Il y a un volet d'adaptation qui est important qui a été fait.
Tout à fait.
Donc, souvent, l'élément déclencheur du comportement était lié à l'environnement. Et ça, Mme Beaulieu pourrait vous en parler parce que c'est la directrice de l'école Ils ont vraiment ouvert une école primaire cette année. Ils ont séparé le primaire du secondaire. Et ils ont tenu compte des recommandations issues de travaux qui ont été faits en parallèle parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait réfléchir l'espace TGC. Bon, c'est comme ça qu'on l'avait appelé à l'époque. Mais de dire qu'est-ce que dans l'environnement, on pourrait modifier ou adapter qui va permettre de répondre à un groupe de jeunes qui ont à vivre ensemble au quotidien ou à recevoir une scolarisation, mais en tenant compte des particularités de chacun. Mmh. Et ce que ça fait, c'est que l'école primaire, tu peux en parler un peu plus.
Oui, c'est ça. Moi, j'ai eu la chance de visiter l'école primaire, puis c'est vraiment, ça a été des travaux qui ont été faits dans un bâtiment qui était déjà existant, mais tu sais, par exemple, il y a une pellicule particulière dans les fenêtres qui évite que ça soit trop éblouissant. Ah, ouais. Les néons ne sont pas des néons comme on va trouver dans toutes dans les magasins grande surface, par exemple. Les couleurs choisies sont des couleurs qui sont, selon la littérature, des couleurs qui vont être apaisantes. Tu sais, les casiers sont intégrés dans les salles de retour au calme, qui sont des salles zen. Il n'y a pas de porte, donc on n'enferme pas les enfants. Les aides pour je dirais le maintien, mais la constance physique vont être faites avec des gros ballons, des énormes ballons de kinball. Là.
Oui.
Donc, on n'est pas en contact avec l'enfant, on ne le blessera pas, on ne se blessera pas. L'enfant peut donner des coups s'il veut, mais on est quand même, c'est quand même sécuritaire. Mm-hmm. Fait que tout ça, c'est vraiment, vraiment agréable.
Tout ça pour garder l'enfant accroché au milieu scolaire, ce que j'entends bien. Vous parliez tout à l'heure, je n'ai pas inscrit les chiffres sous mes yeux, là, mais d'enfants d'âge primaire qui étaient en rupture scolaire. Ça a énormément d'impact sur son développement personnel, là, j'imagine. En évitant ça, j'imagine qu'il y a des impacts sur la santé globale de l'enfant et même des familles.
Surtout des familles, mais aussi de l'enfant, effectivement. Parce qu'un enfant qui reste à l'école, un enfant de 5 ans qui est en rupture scolaire, c'est parce que le cheminement va être extrêmement
mais
long.
La vie commence de façon difficile.
Tout à fait. Donc, déjà, on est beaucoup plus dans la normalisation que je mets ici entre guillemets, mais quand même, quand un enfant peut aller à l'école.
Ouais.
Fait qu'en partant, ça va aider d'abord au développement. Tu as tout le développement social qui se fait beaucoup dans les écoles parce que c'est là où on est. Tu as les familles là-dedans. Les familles, quand l'enfant n'est pas à l'école... C'est parce que papa et maman, ils font quoi? Il n'y a plus de garderie, là, rendu à 5 ans, 6 ans, 7 ans, là. Donc, la structure qui existe dans notre société, ce sont les écoles. Si l'enfant n'est pas en mesure d'aller à l'école, le parent n'est souvent pas en mesure d'aller travailler.
Voilà.
Et on n'a pas tous des emplois qui nous permettent d'avoir une banque de maladies, là. Fait que c'est quelque chose dont il faut tenir compte.
Et le parent a beau être, à mon sens, le premier expert de son enfant, à un moment donné, ces limites-là, ben, elles sont dépassées. Là. On a besoin de cette aide-là, d'un psychologue, d'un orthopédagogue ou je ne sais trop, pour pouvoir s'encadrer un peu plus. Là.
Oui, puis dans le fond, notre approche, c'est le besoin de l'enfant, mais tenir compte de la réalité de la famille.
Mm-hmm.
Donc, c'est important de que le parent prenne sa place ou pas prenne, mais
qu'on lui laisse
demeure,
aussi,
c'est ça, auprès de l'enfant. Mais l'enfant, le soir, il retourne à la maison.
Oui.
Donc, c'est important qu'on puisse accompagner le parent à vivre des réussites et des bons moments avec son enfant. Donc, l'enfant vient à l'école. C'est sûr que le projet vise les enfants qui ont des difficultés et qui risquent de rupture. L'entente qu'on a prise, c'est qu'il n'y a pas une direction d'école qui met, entre guillemets, un enfant en rupture sans qu'on soit interpellé. Qu'on puisse ensemble réfléchir,
chercher des solutions.
C'est ça, cette rupture-là, parce que du moment où un enfant est en rupture, il y a une situation de crise qui va se vivre à la maison.
Mm-hmm.
Donc, ça arrive parfois que l'enfant ait besoin d'une pause dans sa scolarisation, mais on s'assure de réfléchir avec le parent des mesures qui doivent être mis en place à la maison pour soutenir la famille le temps qu'on aille ajuster des éléments pour mieux réintégrer l'enfant à l'école.
Oui. Parce que une famille en état de crise est déjà une marginalisation de l'enfant, peut-être à son insu parce qu'il a 5 ou 6 ans, mais ça s'inscrit quand même quelque part dans son parcours. Le temps file, mesdames. Je veux parler des réussites parce qu'il y en a concrètement, ce que vous avez pu observer.
Écoutez, une des plus belles réussites, c'est dans les écoles qu'on a amorcées, parce qu'il n'y a pas juste l'école JFK, là, John F. Kennedy. On a des travaux d'amorcer dans les 4 commissions scolaires sur 5 de Montréal. Et il y a des jeunes en rupture complète, là, il y en a très, très peu. Et s'il y en a, on est inscrit avec l'équipe scolaire et on travaille à réintégrer le jeune du moment où on est interpellé. Moi, quand j'ai commencé dans un rôle conseil, j'avais au-dessus de 90 consultations de demandes conseil de l'équipe du RDI à l'époque pour des situations litigieuses quand ça arrivait à mon bureau. Et maintenant, j'en ai une ou deux par mois. Donc, c'est majeur en 3 ans, là, de les effets qu'on a du moment où on a compris la situation ensemble, les besoins du jeune. Et il y a une entente de signer entre nos deux réseaux, l'entente MESMEL, qui est entre le réseau de la santé et de l'éducation, qui, du moment où une direction d'école interpelle quelqu'un du réseau de la santé, le partenaire, comme quoi que c'est requis qu'il soit présent pour mieux desservir cet enfant-là, on se doit d'être présent et s'inscrire en co-responsabilité dans les solutions à, ou dans les services à ajuster pour mieux desservir cet enfant-là. Mm-hmm. Donc ça, honnêtement, on a un peu dépoussiéré cette entente-là, parce qu'elle a été signée en 2003, mais les assises sont encore très d'actualité, vraiment.
Donc, en seulement 3 ans, des impacts de réussite assez majeurs pour ces enfants-là, des enfants donc qui ont davantage de plaisir à aller à l'école.
Ils ne sont pas stigmatisés, qui restent avec leurs amis, qui font comme le grand frère ou la grande sœur parfois et qui s'en vont à l'école eux aussi. Ouais. Puis on a vraiment appris et on a développé des zones de collaboration puis des zones de prévention. On a appris à travailler en prévention et on a cessé de jouer aux pompiers.
Oui, voilà.
Parce que c'était soufflant jouer aux pompiers. Oui. On est toujours en situation de crise, il faut toujours faire vite, il y a toujours du danger. Là, on est en prévention, on est capable de voir venir les choses, on est capable de réfléchir et on est capable de travailler ensemble et de reconnaître nos différentes expertises. Parce qu'une des choses qu'on a faites, c'est de dire, OK, voici, on a un enfant X, il a des besoins X, Y, Z. Qu'est-ce qu'on a déjà? Qu'est-ce qu'on a déjà sur place parmi notre groupe de personnes? Qu'est-ce qu'on a comme expertise? Qu'est-ce qui manque? OK, on va aller le chercher. Parce qu'une des choses qu'on fait depuis 2 ans maintenant, c'est qu'on fait une formation commune en début d'année où on va chercher tous les enseignants, tous les éducateurs spécialisés du CRDI de l'école. On les met ensemble et on dit, voici, ça, c'est notre langage. Voici notre langage commun. Et on a 2 côtés dans notre travail. On a le côté gestionnaire, donc administratif, puis on a le côté plus clinique avec tous nos professionnels. Et le but, c'est l'un supporte l'autre.
Oui.
Donc, c'est comme ça que ça marche.
Et c'est beaucoup plus facile pour le parent. Parce que le parent n'est pas pris entre l'ensemble de ces professionnels-là qui parlent, qui ne s'est pas coordonné.
Voilà. Et pour le personnel, donc ça protège et les familles et les enfants et le personnel. Et en plus, c'est un bonus pour notre société parce que je ne pense pas qu'on puisse se priver de ces jeunes-là, de leur savoir, de leur passion, de tout ce qu'ils peuvent amener à contribution de notre société. Ce sont les citoyens de demain, malgré les défis qu'ils rencontrent au quotidien. Alors, Manon Lusignan, conseillère cadre à la direction adjointe, partenariat et soutien à l'offre de services. Merci, Josée Beaulieu, coordonnatrice CRDI TED de Montréal. Ça a réellement été un plaisir. Merci beaucoup, mesdames.
Bien, merci beaucoup à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Jean-Sébastien de la Liberté, à la mise en onde, Marianne Paquette. On vous donne rendez-vous demain, 14h, la dernière de C'est bon pour la santé avant 2016. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.